Quelques mots avant que ne démarre ce nouveau rendez-vous d'Ego-Système pour vous dire que notre émission a été enregistrée avant ce funeste mercredi 7 janvier, raison pour laquelle il n'y est fait aucune allusion. Nous allons durant une heure parler d'optimisme, une valeur à ne pas lâcher, car derrière ce mot, on parle d'humanité, d'échange, de valeur à partager pour se tenir chaud.
Ego-Système, Florence Farion.
Il vous est certainement déjà arrivé sur les marchés de craquer pour un coupe-légumes révolutionnaire, un balai qui va changer votre vie, tout ça parce que le type qui vendait ça avait l'air convaincant et convaincu et que ça a su attirer votre oreille parce qu'il avait du bagout, parce qu'il avait une capacité de persuasion, un sourire. Un incroyable entrain. Son objet est utile, certes, mais lui, il avait su en faire quelque chose dans son argumentaire, quelque chose de plus, quelque chose de lumineux et de terriblement convaincant. Alors si je vous raconte cette histoire, c'est parce que celui que nous recevons ce 10 janvier pourrait vendre des coupes légumes sur le marché et je suis sûre qu'il aurait fait un carton. Mais il fait autre chose de cette force de conviction, lui vend de l'optimisme et il le donne même. À vous de voir avec combien de paniers pleins vous repartirez à 14h, en tout cas il sait faire l'article. Bonjour et soyez les bienvenus. Bonjour Philippe Gavillet.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir en ce 10 janvier pour un énorme bol d'air. Vous me dites, je suis habitué des sujets comme ça de fin d'année, de début d'année.
Absolument. J'ai eu droit aux bonnes résolutions, comment réussir son année 2015, enfin voilà.
Il y a un air printanier parce que l'optimisme, vous dites, même en hiver, ça fonctionne en mode printemps.
Absolument. Et c'était d'ailleurs une poète américaine un peu oubliée, qui s'appelait Suzanne Bissonnette, qui avait une jolie image. Elle disait, un optimiste, c'est l'incarnation humaine du printemps. Pourquoi ? Parce que dans le fond, si vous avez vraiment un optimiste ou une optimiste en face de vous, vous avez l'impression que tout peut redevenir possible. C'est pour ça, en fait, qu'on fonctionne en mode printemps.
Alors, quand je disais que vous êtes une sorte de VRP de l'optimisme, ça ne vous fâche pas, hein ?
Ah, pas du tout.
Pas du tout. Pas du tout. Je faisais allusion. Alors, d'abord à votre livre, Éloge de l'optimisme. C'est un livre qui est sorti il y a quelques années aux éditions Saint-Simon, avec un sous-titre qui est important, Quand les enthousiastes font bouger le monde. Et ça, on y reviendra. Ça, c'est vraiment important. Il y a aussi des conférences que vous donnez. Et vous êtes aussi vice-président de la Ligue des optimistes de France. Je mets tout ça en vrac, on va détailler. Mais quand même, 21e siècle, c'est vrai qu'on a l'impression que vous êtes un peu à contre-courant, parce qu'il y a une sorte de conformisme, et c'est pas moi qui le dis, c'est Michel Lejoyeux, que vous connaissez certainement, qui est professeur de psychiatrie. Il y a une sorte de conformisme social à être pessimiste.
Ah mais c'est d'ailleurs un point sur lequel je rejoins totalement Michel Lejoyeux. Il a d'ailleurs été, moi, l'une de mes sources, en tout cas scientifiques. À l'époque où j'avais écrit Éloge de l'optimisme, j'avais découvert, dans un de ses ouvrages, qui s'appelle Les secrets des comportements, il avait fait une synthèse de toutes les études scientifiques sur la mesure de l'optimisme et du pessimisme et les conséquences que ça pouvait avoir pour la santé, pour le bien-être, pour l'équilibre. C'était tout à fait fascinant. Alors cela dit, la question est de savoir est-ce que c'est véritablement un conformisme lié au pessimisme ou tout simplement un conformisme de mauvaise humeur. Et alors c'est peut-être un réflexe de français, hein, mais pour moi c'est un conformisme de scepticisme. C'est-à-dire qu'il est intelligent d'être sceptique. Je suis d'ailleurs assez d'accord avec ça. En revanche, je pense qu'il n'est pas intelligent de n'être que sceptique.
Parce que ça empêche.
Mais oui, parce que le scepticisme, par définition, si l'ensemble des grands créateurs, des grands découvreurs avaient été sceptiques, on ne saurait toujours pas que l'Amérique existe, on n'aurait pas inventé les vaccins contre la rage, et la plupart des grandes œuvres, même de l'esprit, resteraient aujourd'hui d'être mortes. Comment vous dire ? On a été dans une relation de soumission par rapport à la nature. À partir du 18e, on est rentré dans une relation de domination par rapport à la nature. Et il semblerait maintenant que nous soyons rentrés dans une relation de suspicion, non seulement par rapport à la nature, mais surtout par rapport à nous-mêmes face à la nature. Sous-entendu, maintenant, si nous touchons, nous, Homo sapiens, nous touchons à la nature, que ce soit de la nature-nature ou la nature humaine, etc., nous ne pouvons que faire, in fine, du dégât. Et donc ce principe de précaution qui est devenu un principe existentiel et moral, là, pour le coup, a de quoi rendre pessimiste, puisque par définition, tout est dangereux.
Absolument. On va quand même dire qui vous êtes en bref, de longues études, carrière.
Oui, quand même. Oui, plutôt en sciences humaines d'ailleurs. Voilà. Oui, je suis venu à la psychologie sur le tard.
Carrière de consultant, d'enseignant, et vous enseignez la psychologie et le développement professionnel aux jeunes loups du commerce. C'est
voilà.
Un raccourci.
En fait, oui, c'est un peu raccourci parce que j'enseigne effectivement ça, mais l'honnêteté m'oblige à dire que j'enseigne moins aux jeunes qu'aux moins jeunes, puisque d'accord. aujourd'hui, je suis quand même plutôt, dans le cadre du groupe ESCP Europe, dans lequel je travaille, plutôt dédié quand même à la formation des managers, des dirigeants. Mais j'ai encore quelques jeunes dont je m'occupe tous les ans sur les thématiques du leadership, de la motivation des autres, etc.
Mais là, vous enseignez HEC Genève.
Absolument, HEC Genève, dans le cadre d'un diplôme, donc à l'université, où je fais un cours de 2 jours tous les ans sur le leadership. Voilà.
Comment vous les trouvez, nos Suisses ? Alors, vous avez l'habitude, vous êtes français. Comment vous les trouvez, nos Suisses, justement, sur l'échelle de l'optimisme ? On est plutôt comment, nous, ici ?
Ben, c'est-à-dire que, et Dieu sait que c'est en toute amitié, mais les Suisses auraient du mal à dire que tout va mal. Moi, ce que je ressens en Suisse, c'est une grande humilité par rapport à sa propre réussite.
Protestantisme un peu quand même.
Oui, probablement. Et le protestant que je suis d'ailleurs le comprend d'autant plus. Mais d'un autre côté, je comprends aussi ce qui frappe beaucoup quand on vient ici, c'est une espèce de sérénité. Et qui, dès l'instant où on est entre amis proches, devient très vite effectivement une sérénité, mais marquée de beaucoup de joie, beaucoup de convivialité. Pour moi, la Suisse reste un environnement chaleureux. Je pense à de la chaleur quand je viens ici, ce qui est étonnant. Ça saute pas aux yeux, a priori.
Et sur l'échelle de l'optimisme ?
Ben, sur l'échelle de l'optimisme, à l'exception peut-être des banquiers, je dirais que bon, vous êtes plutôt quand même plutôt pas mal. Sur une échelle de 1 à 10, quand même, les Suisses sont, on va dire, à 6,5-7, ce qui, pour les pays occidentaux, est quand même énorme. Aujourd'hui, les grands pays sur l'échelle de l'optimisme sont les pays africains ou les pays vraiment émergents. La dernière étude Gallup qui avait été faite là-dessus, c'était Nigeria, Ghana, Ouzbékistan, Vietnam. C'était ça, les pays optimistes. En revanche, bon, la France, la Belgique, la Serbie, ces pays en fait, qui ont en grande partie leur mutation historique derrière eux. C'est-à-dire que, bon, ils ont des croissances moyennes, etc. Ah oui, ils ont été grands. Bon, et puis ils le sont moins peut-être. Et puis voilà, puis il y a des Chinois qui arrivent, puis des Indiens, puis des Brésiliens, etc. Alors peut-être que là, ça va nourrir un certain pessimisme par rapport à l'avenir, mais ça reste quand même très relatif. Et en particulier chez les Français, parce que alors, les Français sont un pays formidable de ce point de vue-là. Par définition, ils ne sont pas contents. On n'a jamais été contents de rien, on ne va pas commencer maintenant. Bon, souvent un ami belge me disait, les Français ne sont pas vraiment pessimistes, mais ils cachent leur joie. Vous voyez, donc c'était un peu cette idée-là. Et en fait, voilà ce qui se passe. Et vous mettez des Français, par exemple, autour d'une table, à l'occasion d'un dîner, si possible. Bon. Oh, écoutez, par expérience, je peux vous dire qu'en une demi-heure, ils vont se mettre d'accord, la France est foutue.
Ça part bien, déjà.
Après, si vous les prenez un par un en disant « Mais alors, bon, vous,
et toi,
dans votre
voilà,
vie, ouais. toi, ça va ?»« Ah, mais moi, ça va très bien. » »« Non, mais moi, ça va. Moi, je te parle des autres, là. C'est la société, c'est les politiques, tout ça. »« Ah non, nous, on se débrouille pas mal. Au contraire, bah, tu penses, hein, parce que j'ai monté un coup. » Mais c'est un peu... Ça, c'est un truc qui est typiquement gaullois, hexagonal. Ce que Jean Viard, le sociologue, appelle, des modes de vie, appelle le macro-pessimisme qui, heureusement, est en permanence compensé par un micro-optimisme. Voilà.
Mais il y a quelque chose aussi de honteux, presque, à dire aujourd'hui qu'on va bien, qu'on est optimiste et qu'on a foi en l'avenir. Comme, je sais pas, comme on fume, on se planque un peu. Enfin, tout ça, c'est devenu un truc un peu gênant d'être optimiste.
Oui, alors ça peut avoir un caractère un peu indécent dès lors que ça n'est pas fondé. Ce qui est indécent, clairement, c'est l'injonction optimiste. C'est-à-dire, voilà, mais enfin, vous devriez l'être. Or, moi, je suis le premier à dire, attention, nous sommes dans des sociétés où des gens vivent des situations personnelles tellement difficiles. Jouer le rôle de l'optimiste devant eux est véritablement quelque chose d'indécent. Ils ont de quoi mal réagir. Ils ont besoin qu'on soit à l'écoute. Ils ont besoin de compassion. Ils ont besoin peut-être de soutien. Pourquoi pas ? L'optimisme, c'est censé être une énergie relationnelle. Et il existe des situations de vie, par exemple des gens qui sont en phase de deuil, par exemple, ils n'ont pas besoin d'énergie relationnelle à ce moment-là, parce que cette énergie relationnelle, elle tomberait sur le mur, qui est le mur de la souffrance, le mur de la douleur. Donc, il va falloir attendre un peu. En revanche, l'optimisme, dès l'instant où on comprend que ce n'est pas uniquement voir la vie en rose, et c'est surtout pas positiver, on pourra en reparler si vous le voulez, ça reste quand même une attitude créatrice de vie. D'ailleurs, j'allais presque dire c'est du bon sens. Mmh. Je dis souvent, moi, à mes étudiants, si vous ne pensez pas intimement que l'optimisme peut vous aider à booster l'énergie autour de vous, essayez avec le pessimisme, vous allez voir. Il n'y a pas d'alternative, effectivement, sur le long terme. C'est quand même l'attitude qui va, effectivement, parfois conduire à faire des erreurs, incontestablement, puisque l'optimisme, c'est un pari. C'est un pari sur la vie. L'optimiste vous dit, on vit dans un monde très compliqué, difficile,
mais
il y a un truc à faire.
Voilà.
Voilà, on va tenter. Et surtout, non seulement il y a un truc à faire, mais je peux peut-être faire quelque chose, et je peux peut-être t'aider moi, à faire quelque chose. Alors ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Je crois que c'est Kundera qui disait, je préfère vivre en optimiste et me tromper, plutôt que vivre en pessimiste pour la seule satisfaction d'être le gars qui a eu raison. C'est une notion qui est porteuse de vie et qu'on pourrait corréler d'ailleurs à d'autres choses, hein, à la créativité, à l'écoute, à la motivation, enfin,
la confiance. Voilà, aussi, art de vivre en société. C'est vrai que ça, c'est ce que, bon, dans cette émission, on parle de liens dans Égosystème. C'est vrai que cet éloge de l'optimisme, c'est pas un truc qu'on s'offre à soi. C'est un truc qu'on s'offre à soi, mais pas seulement. C'est vraiment un truc qu'on partage ensuite.
Hein. Oui, et c'est d'ailleurs la raison d'être de l'optimisme, elle est dans l'autre. Parce que là, raisonnons aussi posture intellectuelle. Ce dont il faut se méfier quand on parle de ces sujets-là, c'est de raisonner en termes de psychologie populaire. Il est optimiste ou elle est optimiste, il est pessimiste, elle est pessimiste. C'est pas si simple que ça. On devrait dire non, effectivement, il a tendance à avoir une attitude pessimiste ou optimiste par rapport aux événements. Après, derrière, bon, la personnalité, tout ça, on sait pas trop. En revanche, ce qui est clair, c'est que le pessimisme est une vraie posture de déconstruction intelligente du monde. Faut bien admettre, dire que les pessimistes sont souvent des gens très intéressants, qui disent des choses qui tiennent la route. Le problème du pessimiste, c'est lorsqu'on passe à l'action. Et si vous êtes pessimiste, en gros, en société, vous avez plutôt intérêt à être quelqu'un d'isolé. Par exemple, il vaut mieux que vous soyez un expert, voyez, il vaut mieux que vous soyez, que vous n'ayez de compte à rendre à personne, sinon à la postérité. Mais dès l'instant où vous commencez à avoir des enfants, des jeunes dont vous vous occupez, des collaborateurs, etc. Ah, alors là, attention. Parce que celui, en fait, qui est optimiste, il est aussi optimiste parce qu'il a vocation à optimiser la relation à l'autre. Même quand j'ai des coups de blues, si vous voulez, prendre un rôle d'homme pessimiste vis-à-vis de mes enfants ou de mes collaborateurs, je dirais, c'est à la limite de la force morale, puisque vous avez des gens, on dit qu'on a charge d'âme. Je pense que non, on a charge d'état d'âme. Et dès l'instant où on est dans un métier, dans une fonction sociale, où on a charge d'état d'âme, c'est-à-dire qu'on a autour de nous des gens qui attendent de voir comment nous, on va réagir pour eux, à tort ou à raison, se définir, voir ce qu'ils vont faire. Là, il faut faire attention à ce qu'on fait, quoi.
Cette ligue de l'optimisme, on en dit deux mots quand même, Philippe
Cadillier.
Ça a commencé par une histoire belge. J'adore.
Ah oui, c'est
un avocat belge.
Absolument, c'est un avocat même, qui est d'ailleurs qui a pignon sur rue, qui est
Luc
toujours.
Luc Simonet qui fait la préface
voilà,
de votre
qui
éloge,
fait la préface. Luc Simonet a été le fondateur dans les années 2000 de la Ligue des optimistes du Royaume de Belgique. Il a multiplié les associations d'optimistes dans l'Europe entière. Et c'est vrai qu'il avait un problème autour de 2010 avec la France où il n'arrivait pas à le lancer. Et donc moi, il m'avait contacté ainsi que quelques amis, quelques amis étant très proches du monde médiatique et intellectuel parisien, on avait réussi à récupérer dans cette aventure des grandes figures amusées par le projet, tels que Jean d'Ormesson, Éric Orsenna, Éric-Emmanuel Schmitt, Mathieu Ricard. Et donc on a lancé. Il ne s'agissait pas de faire une association qui fasse des mille et des cents, mais d'essayer de créer un mouvement. Et donc on a, à un moment donné, créé une newsletter. Et pour nous, c'était ça le critère. On dit, mais si cette newsletter arrive à se développer seul, parce qu'on n'a pas le temps, nous, de faire de la promotion pour tout ça. Donc, ça fonctionne vraiment en auto-allumage. Il existe d'ailleurs l'équivalent en Suisse.
J'allais vous le dire, on a aussi la même chose ici.
Absolument, c'est Emmanuel Tognotti, si mes souvenirs sont exacts, qui est le président de la Ligue des optimistes de Suisse. Et on a, nous en France par exemple, cette newsletter a maintenant 6800 abonnés qui, tous les lundis matins, reçoivent dans leur boîte mail une lettre optimiste qui est en fait un... Alors ça peut être un article qui a été repris de la presse, ça peut être un conte oriental, ça peut être une réflexion de fond sur le bien-être, l'optimisme en société, etc. Peu importe. Nous, le critère, c'est quelque chose qui mérite d'être renvoyé à son carnet d'adresse pour démarrer la semaine de façon positive. Alors, c'est une sorte de clin d'œil.
C'est un sourire dans la boîte aux lettres.
Un sourire dans la boîte aux lettres. Et puis après, autour de ça, vous avez eu des initiatives. Nous, ça nous a totalement échappé. Par exemple, il y a eu une manifestation extraordinaire au mois de mai qui était le printemps de l'optimisme.
Organisée par Psychologie Magazine.
Par Psychologie Magazine. Ouais. Le fondateur, le créateur de ça, c'est le publiciste Thierry Sausset. Et le jour où le printemps de l'optimisme a démarré, au même moment, dans la France entière, dans 30 villes différentes, des bénévoles ont monté, à partir de rien, des dîners d'optimistes. Les gens qui viennent se reconnaissent comme optimistes et, pour qu'il y ait un petit quelque chose, on demande à quelqu'un de venir faire un speech sur un sujet traitant d'une problématique optimiste. Et ça a démarré. Et maintenant, les gens continuent à en faire. Tout ça nous échappe totalement et c'est très bien comme ça.
En même temps, quand je vous entends citer les noms de Mathieu Ricard, Éric Orsenna, Jean d'Ormesson, Éric-Emmanuel Schmitt, ou même vous, nous avons tous de bonnes raisons d'être assis dans nos fauteuils, confortables, etc. L'optimiste, c'est quand même un sport d'élite, l'optimisme.
Moi, une des personnes les plus optimistes que je connaisse, et qui est une de mes collègues, je dirais, dans mes activités radiophoniques en France, c'est une femme incroyable qui a écrit ce livre qui s'appelle « Longtemps j'ai habité dehors », qui s'appelle Elina Dumont. Elina Dumont, c'est une femme qui a été SDF pendant 25 ans. Et un jour, elle en est sortie. Et aujourd'hui, dans le fond, toute son expérience de la pauvreté et surtout de la sortie de pauvreté, elle l'a mise au service des autres. Par définition, elle est à la fois dans une lucidité absolue par rapport à la dureté du monde dans lequel nous vivons et elle est porteuse d'espoir parce qu'elle dit « Regardez ce qui m'est arrivé ». Dans un autre ordre d'idée, dans les optimistes, on a notre ami Philippe Croizon. Philippe Croizon, amputé des deux bras et des deux jambes par accident, etc.
Qui a traversé la Manche
à la nage et qui, alors qu'il n'a plus de bras, plus de jambes, démarre ses conférences en vous disant « Mesdames, messieurs, ça va vous paraître bizarre, mais je voudrais vous expliquer et que vous compreniez pourquoi j'ai une vie extraordinaire. » Voilà, donc on voit aussi chez des gens qui ont vécu des choses compliquées, des gens simples, qui vont vous dire, ben oui, je trouve que... ils ne pourront peut-être pas mettre les mots que je mets dessus, mais ils vous diront, quand j'ai cette attitude-là, les choses se passent différemment autour de moi, dans ma famille, avec mes amis, etc. L'idée étant qu'on va à un moment donné dire, puisque tout ce qui est pessimisme, analyse critique, etc., il y en aura toujours, il y en a plein. Il suffit d'écouter les chaînes d'infos en boucle, il n'y a pas de problème.
On va le trouver partout.
Voilà. L'approche critique, ici, ouais. Elle est partout. Mm-hmm. Donc, ça pourrait simplement, en termes de rééquilibrage, être intéressant qu'on essaye d'apporter un autre regard. Mais encore une fois, l'optimisme ne s'oppose pas à la douleur, à la souffrance, à la misère. Simplement, il est un regard différent porté sur ce qui est difficile. On serait des théologiens du 17e, on dirait que c'est un regard différent porté sur le mal.
Et vous savez quoi ? On va en parler après, un peu
de
musique.
Un peu de musique.
Le comment ça marche, comment, sur quel ressort tout ça se joue. Et il a fallu que Jean-Baptiste Roumain, figurez-vous, remonte presque 30 ans plus tôt dans notre discothèque pour trouver un homme heureux. Il l'a trouvé, c'est un souvenir musical d'un groupe aujourd'hui disparu, c'est l'affaire Louise Trillaud. Et puis on se retrouve juste après avec notre invité au Faites comme ça, Philippe Gabillet. Oui, l'affaire Louise Trillaud. Et on se retrouve après pour parler de l'optimisme à travers l'éloge de l'optimisme. À tout de suite.
Écosystème, jusqu'à 14h sur la première.
En ce 10 janvier, nous recevons l'optimiste Philippe Gabillier et son éloge de l'optimisme « Quand les enthousiastes font bouger le monde ». C'est un livre qui est paru il y a quelques années déjà aux éditions Saint-Simon. Mais on se disait que c'était bien de démarrer l'année avec vous, donc je suis absolument ravie de vous recevoir avec une couverture à nul autre pareil. Gene Kelly chante sous la pluie et il n'a même pas ouvert son parapluie, il a accroché à un réverbère. Pour vous, ça c'est l'image de l'optimisme.
Oui, il y avait derrière cette image de Gene Kelly sur son réverbère, il y a une interrogation métaphysique, vous voyez, fondamentale, qui est la suivante. Qu'est-ce qui peut pousser un type qui est sain d'esprit à chanter sous la pluie ? On pourrait se dire, ben, il est dans le déni, il ne se rend pas compte qu'il pleut, il a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Bon. D'autres pourraient dire, non, pas du tout, c'est un pervers, il aime la pluie en fait, hein, le gars, il aime être mouillé. Bon. Puis après on peut dire, pensons au contexte, si ça se trouve, on sort d'une période de plusieurs années de sécheresse, c'est le premier jour qu'il pleut de nouveau, c'est formidable. Peut-être qu'en fait c'est romanesque. La femme qu'il aime en secret depuis des années lui a dit, je serai à toi le jour où il pleuvra, donc pour lui c'est un beau jour de pluie, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, la pluie n'a aucune importance dans le fond là-dedans, ce qui compte c'est la signification qu'on va lui donner.
Alors, j'aime beaucoup aussi cette phrase de Bernanos que vous citez, une citation « L'optimiste est un imbécile heureux, le pessimiste un imbécile triste ».
Tout à fait.
À partir de là, on choisit sa posture.
Oui,
donc,
c'est-à-dire qu'en fait, pessimiste ou optimiste, fondamentalement, on a tort parce qu'on ne connaît pas l'ensemble des tenants et aboutissants du monde dans lequel on est. Simplement, l'énergie dégagée, les conséquences pratiques des deux postures vont être très 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 différentes. Ce qui d'ailleurs... Et ça, c'est un point dont on pourra reparler, mais ne veut pas dire que l'optimisme est toujours la bonne solution et le pessimisme la mauvaise. Attention, il existe vraiment un optimisme dysfonctionnel qui pose problème, de même qu'il y a un pessimisme dysfonctionnel.
L'art étant de trouver un équilibre entre les deux. D'ailleurs, nous avons chacun les deux tendances, pessimisme-optimiste, qui alternent selon les moments de vie, selon les circonstances, et que l'on peut appeler... L'un et l'autre, justement.
On est vraiment sur deux ressources. Alors là, si je raisonne en tant que psychologue, on est sur deux ressources que, de toute façon, nous avons apprises. Alors, on considère quand même que l'optimisme et le pessimisme sont des ressources assez complexes et donc assez tardives. Donc, comme ça arrive assez tard, la bonne nouvelle, c'est que c'est flexible, on peut bouger. En revanche, ce qui est clair, c'est que, un peu comme on est gaucher ou droitier, si vous voulez, on est quand même, à l'âge adulte, quand on réfléchit pas, on est sur un mode préférentiel. Vous avez des gens qui sont des optimistes presque par réflexe et d'autres qui vont être des pessimistes par réflexe. Mmh. Mais c'est comme le gaucher ou le droitier. Ça ne veut pas dire que si vous êtes droitier, vous n'avez pas de main gauche. Ça veut dire simplement qu'il va falloir réfléchir. Et donc, moi je dis toujours, on a des gens qui ont dans leur maison intérieure, pour employer une image, dans votre maison intérieure, vous avez deux invités. Vous avez un optimiste intérieur et un pessimiste intérieur, depuis toujours. Certains d'entre nous, en fait, nous avons confié l'intendance de notre maison intérieure à notre optimiste intérieur. Et nous avons gardé le pessimiste comme domestique, vous voyez. Donc, de temps en temps, il nous alerte.
C'est le Jiminy Cricket,
oui, c'est Jiminy Cricket, absolument.
C'est ça, hein.
Et puis, il y en a d'autres qui, effectivement, eux, ont confié leur maison intérieure depuis longtemps, pour des raisons liées à leur vie, à leur pessimiste intérieur. Et ils n'ont qu'un petit serviteur optimiste qui est là pour leur éviter de commettre l'irréparable, quoi. Mais tant qu'on a les deux... C'est bien. Ce qui pose problème, c'est si un jour on en perd un. Imaginez quelqu'un qui n'aurait qu'un optimiste intérieur. Alors là, pour le coup, il va véritablement vivre dans un monde qui n'est pas le bon. Et si par hasard, malheureusement, on ne vit qu'avec son pessimiste intérieur, moi j'aime toujours dire que le problème du pessimisme, c'est que quand on vit trop longtemps en tête-à-tête avec lui seul, un jour ou l'autre, on en tombe amoureux. Et quand on tombe amoureux de son pessimisme, ça porte un nom, ça s'appelle le cynisme. Mmh. C'est-à-dire qu'on se met à jouir des malheurs du monde et la détestation de l'univers, de soi-même et des autres. Et alors là, ça pose un autre type de problème.
Alors la question de comment favoriser justement cet optimisme intérieur pour 2015, est-ce que ça peut se décréter ? Dire la bonne résolution de cette année, je vais devenir optimiste. C'est pas si simple, Philippe Gabillier.
Ah non, en fait, c'est exactement comme un régime. Hein. C'est-à-dire que c'est pas tout de dire je perds 10 kilos. Il faut dire, vous voulez faire quoi ? Vous voulez faire de l'hyperprotéiné, vous voulez faire que du légume et des fibres, et
voilà, lentement, avec du sport, sans sport.
Il faut bien savoir que la caractéristique de l'optimisme, c'est que ça fonctionne sur des mécanismes. Donc
on peut s'entraîner, c'est ça.
Au-delà, c'est un entraîneur, parce que vous pouvez parfaitement être quelqu'un qui n'est pas du tout optimiste par nature, mais il se trouve que parce que vous avez une équipe à faire avancer, par exemple, vous avez la nécessité de connaître les stratégies rhétoriques, psychologiques, qui vont créer de l'optimisme autour de vous. Mais ça peut être aussi un père ou une mère de famille qui a des enfants qui sont, je dirais, en relative difficulté au collège ou au lycée, qui n'y croit plus et qui va essayer, avec les moyens du bord, hein, de remonter tout ce beau monde. Je dis souvent que l'optimisme a ce point commun avec le cholestérol, c'est que, en fait, c'est quand même des choses qu'on fait rentrer dans la machine qui vont produire. Si j'ai du cholestérol, c'est ce que j'ai mangé qui, à un moment donné, fait que, au-delà de mon tempérament. Mmh. Un optimiste, c'est les pensées qu'il met dans sa tête et surtout, c'est la façon dont il ou elle va interpréter les événements qui lui arrivent, la façon dont il regarde le monde autour de lui, qui va créer de l'optimisme. Il y a des façons de voir le monde qui sont fondamentalement créatrices d'optimisme. Il y en a, en gros, trois essentiels. Première caractéristique, travailler son optimisme, ça consiste déjà à s'entraîner, c'est un vrai entraînement quotidien, à regarder le monde qui nous entoure, quel qu'il soit, sous l'angle des points forts qu'il y a dans ce monde. Ça, c'est un point clé, à savoir que le monde réel est fait de forces et de faiblesses. L'analyse des faiblesses est un très bon outil de lucidité, n'est pas un très très bon outil de mobilisation, vous voyez, de soi. Mmh. Donc il faut se focaliser là où ça va bien. Le verre à moitié plein, comme on dit.
On s'appuie sur ses forces, sur
ses compétences. Les orientaux disent, quand ton ami est borgne, regarde l'autre profil. Sous-entendu, essaye d'avoir un regard sur le monde qui va te mettre en contact avec ce qui va bien.
Et en soi-même, évidemment. On est d'accord.
Et sachant que, par exemple, une faiblesse, c'est aussi une vraie réflexion sur les faiblesses, l'optimisme. Vous avez des points faibles qui sont des points faibles structurels. Vous voyez, il y a des pays, par exemple, ils n'ont pas de matières premières. De même que nous, en tant qu'êtres humains, il y a des choses dont on sait très bien depuis toujours qu'on n'est pas bon.
On ne sait pas faire. Voilà.
Alors après, il y a des faiblesses qui sont en fait des forces qui se cachent. C'est-à-dire qu'en fait, on pense qu'on n'est pas bon, mais simplement on n'a pas bossé, on n'a pas travaillé. Tout le rôle du pédagogue va être d'identifier rapidement ça c'est une faiblesse structurelle ou c'est une faiblesse qui est liée à un manque d'entraînement et de travail. Ça, c'est autre chose. Et puis, on va avoir, et ça, c'est très intéressant au niveau de la vie humaine, des faiblesses qui sont en fait des forces, mais qui se sont trompées d'histoire. C'est-à-dire, en fait, ce sont des faiblesses dans le monde où on vit aujourd'hui, dans ce qui est ma vie aujourd'hui, dans mon entreprise aujourd'hui. Mais si ça se trouve, ces choses qu'on me reproche là,
si je change
à un
de
autre
vie,
moment,
de direction,
dans une autre histoire, dans un autre environnement, dans un autre temps, ça deviendrait formidable. Moi, je peux vous dire, je me suis fait virer. Mais les raisons pour lesquelles je me suis fait jeter sont très exactement les raisons pour lesquelles j'ai été, pour le coup,
embauché ailleurs,
et là, ça a réussi. Oui, La Rochefoucauld, le grand moraliste du 7e, disait en fait, il n'aura manqué à certains grands hommes que de trouver leur théâtre d'action. Donc, ça, c'est un point important.
S'appuyer
les
sur
forces,
ses forces.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'optimiste sait mieux que quiconque qu'il existe une façon radicale d'être malheureux. C'est de s'entêter à mettre son énergie, son intelligence, sa passion sur des sujets auxquels on ne peut rien. Ça s'appelle ruminer. Maudire le temps qu'il fait, la mondialisation, le réchauffement climatique, etc. Ce qui en soi sont des choses qui peuvent poser problème, mais ça ne sert à rien.
Et qui peuvent mériter une saine colère.
Mais une colère suivie d'action. Oui, je suis contre le capitalisme et la mondialisation. Très bien. Est-ce que vous êtes engagé, monsieur, madame? Est-ce que vous êtes dans un mouvement anticapitaliste? Est-ce que vous êtes... Non. Alors dans ce cas, vous n'avez pas vraiment droit à la parole, je suis navré. Vous pouvez toujours sautiller, mais ça n'a pas de sens. Mais c'est comme dans la relation à l'autre. Je vous donne un exemple de la vie de tous les jours. Nous sommes maintenant dans un monde où la relation de couple est censée durer longtemps. Mais pourquoi est-ce qu'elle est censée durer longtemps? C'est que...
L'allongement de la durée
mais
de vie.
Mais oui, comme je dis de façon un peu provocatrice, mais moi j'aime bien jouer les sales gosses. Le concept d'amour éternel a été inventé à une époque où l'espérance de vie était de 30 ans. Donc voilà, ça a duré. Donc il faut qu'on dure, quoi. Et sur la longue durée, il existe un comportement dans la vie à deux qui vous pourrit une vie de couple à coup sûr. Ça tient en trois mots. Vouloir changer l'autre. Ça ne marche jamais. Et donc le problème, c'est que toute l'énergie qu'on va mettre à essayer de changer l'autre, on ne va pas la mettre à essayer de faire bouger notre relation, nos règles du jeu, le décor dans lequel on vit, des projets communs qu'on pourrait avoir, etc. On passe son temps à aller sur des domaines où on ne peut rien faire. Et c'est un peu absurde, vous savez, ça me rappelle cette vieille histoire qu'on racontait sur un philosophe grec qui était complètement fou, qui était Diogène, et qui en fait, Diogène était couvert de vermine, et quelqu'un le voit sur l'agora, et il mendiait. Mais il mendiait en faisant l'aumône devant les statues de tous les sénateurs qui étaient autour. Et il mendiait les statues. Quelqu'un lui dit, mais pourquoi, c'est des statues? Pourquoi tu mendies dans les statues? Et Diogène aurait répondu, je suis en train de m'habituer au refus. Et certaines personnes fonctionnent comme ça. Elles sont sur des logiques qui vont obligatoirement créer de la frustration et de l'aigreur à la fin. Donc ça, c'est le deuxième point. En permanence, dans toute situation de ma vie, déjà me dire où est-ce que je peux quelque chose? Où est-ce que j'ai une marge de manœuvre, même infime? Où est-ce que j'ai un levier, même s'il est tout petit? Où est-ce que je peux aller? Ça, c'est la deuxième règle. Avec les points forts, les leviers. Et la troisième solution qui crée de l'optimisme, c'est tout bête, c'est de considérer que la réalité du monde dans lequel on est en fait très pragmatique. Prenez l'histoire de l'humanité depuis Cro-Magnon. L'histoire de l'humanité, en toute objectivité, est l'histoire des solutions que l'être humain n'a pas cessé d'inventer aux problèmes qu'il rencontrait. Ces solutions, à ce jour, ont toujours eu des caractéristiques communes. Elles étaient partielles, imparfaites, parfois d'ailleurs vouées à l'obsolescence, etc. Mais peu importe, elles marchaient un certain temps. Les solutions vivantes, les solutions réelles dans nos vies, sont quasiment toujours des solutions imparfaites, à court terme, vouées à l'obsolescence, etc.
Mais elles existent.
Ouais. Pour ça qu'une des aujourd'hui, quelle est aujourd'hui la qualité? On dit toujours que la qualité la plus adaptée au temps moderne, ça serait, paraît-il, l'adaptabilité. Grossière erreur. Si vous bâtissez votre vie sous l'angle de l'adaptabilité, vous allez être quelqu'un d'extrêmement conforme et soumis. S'adapter, c'est se soumettre. Là, aujourd'hui, la qualité clé des hommes et des femmes des siècles à venir ne pourra être que la créativité. La capacité à recombiner le monde, à innover, mais non plus à innover dans l'entreprise ou dans l'administration, non, à innover d'un point de vue existentiel, à se réinventer soi-même. Se réinventer, d'ailleurs, voulant pas dire obligatoirement tout changer. Mais, vous savez, il existe, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, les enfants connaissent, un vieux jeu oriental qui s'appelle le tangramme. Le tangramme, en fait, c'est 7 pièces de bois qui sont toujours les mêmes, ça tient dans un carré, et il y a 7 pièces de bois dans ce carré. Et on ne sait toujours pas aujourd'hui combien de figures différentes on peut créer grâce à ces 7 pièces. Un être humain, c'est un tangramme. On a nos 7 pièces et on va les recombiner comme ça en permanence. Et on ne sait pas ce qu'on peut devenir dans les 5, 10, 15 ans, 20 ans qui viennent, à condition d'être bien conscient des points forts, c'est-à-dire des pièces qu'il y a là.
Et qu'il y a quelque chose d'extraordinairement jubilatoire à avancer, à faire avec tout ça, avec ces 7 pièces ou avec autre chose dans sa vie. Mais on n'est quand même pas tous nés avec le même bagage, parce qu'on parlait tout à l'heure des neurosciences. Et c'est vrai qu'il y a toute cette vague de psychologie positive qui s'intéresse beaucoup à nos prédispositions ou pas au bonheur et à l'optimisme. Et en l'occurrence, effectivement, on a quand même dans notre configuration mentale des dispositions génétiques qui nous amènent ou pas. Il y a cette fameuse sérotonine, on peut être bon transporteur ou petit transporteur de sérotonine, on est d'accord. On n'est pas
Sachant que vous voyez, sur une population d'Europe occidentale, les gros transporteurs de sérotonine, je crois qu'on doit être autour de...
Parce que vous savez que vous êtes un gros transporteur.
Voilà, 12%, quoi, 12-15%. Heureusement qu'il y a beaucoup plus d'optimistes que ça, mais il existe aussi une réalité biochimique. Mais je vais vous dire par expérience quand même, je trouve qu'il y a une vraie réalité biochimique au pessimisme, et là, celle-là, il faut alerter les gens. Ça va dire, attendez, vous êtes plutôt quelqu'un qui est heureux, bien dans sa peau, etc., et tout d'un coup, tout se met à aller mal. À un moment donné, on n'est peut-être pas obligé d'aller voir un psy tout de suite. On peut aussi aller voir son médecin de famille, dire faites-moi des analyses de sang, parce que il existe des réalités biochimiques en ce monde, à caractère thyroïde, hypophyse, vitamine D, fer dans le sang, etc. Si ces marqueurs commencent à faiblir, je dirais on perd son optimisme et pourtant on reste le même homme ou la même femme. Mais en revanche, là où vous avez raison, on n'a pas tous les mêmes cartes au démarrage, parce que nous n'avons pas eu les mêmes apprentissages sociaux au démarrage. Mais malgré cela, l'hypothèse qu'il y a derrière, et c'est la psychologie positive, le mouvement scientifique de la psychologie positive, entre autres les travaux de Seligman, de Petersen, de ces gens-là qui nous l'ont appris, tout individu, sans exception, possède jusqu'au dernier jour de sa vie la capacité à optimiser ce qu'il est. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, on peut toujours mieux faire avec ce qu'on a. Le péché ultime par rapport à sa propre nature humaine, c'est probablement le gâchis. Ne pas aller jusqu'au bout de son talent. Vous avez des mystiques musulmans, les soufis, il y a un proverbe soufi qui dit « Tout être humain naît pour jouer une mélodie et la pire malédiction qui puisse arriver est de devoir quitter ce monde sans avoir pu jouer la mélodie pour laquelle on avait été conçu. Ce qui me navre le plus, c'est le gâchis de talent. C'est-à-dire les gens qui passent à côté de leur vie, par exemple, et dont on sait que, pris différemment, ils auraient pu faire de leur vie quelque chose d'autre. Mais alors, vous avez des gens, ils n'étaient pas au bon endroit, ils n'ont pas rencontré les bonnes personnes. Mais malgré cela, à un moment donné, reprendre sa vie en main, ça ne veut pas toujours dire tout chambouler, tout envoyer balader. Non, reprendre sa vie en main, c'est dire, tiens, je vais regarder mon tangramme différemment. Qu'est-ce que je pourrais faire d'encore mieux avec ce que je suis, avec ce que j'ai, avec ce que je suis capable de faire? Alors, effectivement, si on commence à espérer, je voudrais avoir autre chose que ce que j'ai. Ah, attention, je voudrais faire. Alors là, on rentre dans un espèce de truc où ça va pas, c'est une espèce de réflexe déficitaire. Non, disons, avec l'homme ou la femme que je suis, avec les gens qui sont autour de moi, je peux sûrement faire mieux. Et puis tant qu'à changer, je vais peut-être changer des petites choses. On n'est pas obligé non plus de partir habiter à Bora Bora hein, pour
oui,
changer
c'est ça,
de vie.
C'est pas le bonheur
oui,
comme ça, l'île déserte.
Il y a cette espèce de mythe comme ça, vous voyez, du changement de vie. Les chercheurs en France qui ont appelé ça le syndrome de la chambre d'hôte. Le top manager qui en a ras-le-bol, qui va tout balader et qui s'installe au fin fond du Luberon ou du Larzac pour ouvrir une chambre d'hôte. Et donc, alors qu'en fait, il oublie que par définition, les névroses qu'il avait quand il était à la Défense ou là-bas, il les embarque avec lui en gros dans le Larzac et dans le Luberon. Voilà, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas d'avoir une autre vie que celle qu'on a. Le problème est de se dire comment est-ce que je pourrais mettre de la vie ajoutée.
Et ça peut passer par un changement de vie. Mais en tout cas, ce n'était pas la
voilà,
première
mais
solution.
Mais le changement de vie est une des options.
Absolument. Éloge de l'optimisme. On va continuer avec Philippe Gabillier à feuilleter, à entrer effectivement dans ce relationnel aussi qui est fort intéressant puisque vous appelez ces optimistes des radiateurs.
Oui.
J'aime beaucoup l'idée qu'on aime s'en approcher comme ça pour avoir chaud et ça fera du bien, on se dit janvier. À tout de suite pour la dernière partie d'Écosystème. On va tout de suite écouter une optimiste. Enfin, si elle ne l'est pas, en tout cas, elle fait bien semblant. Elle s'appelle Licia Cherry. C'est une genevoise qui regorge de bonne humeur. La preuve par ce titre, ça s'appelle Fly. Et si elle n'est pas optimiste, encore une fois, elle fait bien semblant. À tout de suite.
Yes. Every time I set foot outside, I just feel like too many people don't enjoy their lives. I'm not saying it's easy to ignore the signs, telling you that maybe your future won't turn out right.
Sur la première, c'est la suite, dernière partie d'Écosystème avec Philippe Gabillier, le livre paru aux éditions Saint-Simon, Éloge de l'optimisme, quand les enthousiastes font bouger le monde. Et c'est vrai qu'on va parler du relationnel de ces optimistes, et ça c'est un très joli chapitre, parce que je le disais juste avant, c'est vrai que vous les appelez des radiateurs. Alors c'est quoi qu'est-ce qu'on va dire? Des gens que l'on voit déambuler, qui ont une sorte de soleil, comme ça, ils ont le sourire, on a l'impression qu'ils viennent d'apprendre une bonne nouvelle, dont on dit qu'ils ont comme ça du charisme.
Ça pourrait être ça, mais parfois c'est plus simple que ça, parce que vous avez des gens qui sont des gens simples, qui n'ont pas obligatoirement beaucoup de charisme, mais quand on va croiser leur chemin, on va avoir le sentiment qu'ils irradient quelque chose. Alors, d'ailleurs, je vais vous dire, l'énergie que ces gens irradient est en fait liée à soi-même ce que l'on attend. Mmh. Il y a des moments où on attend du soutien. comme par hasard, le fait de discuter avec eux, ça va nous soutenir. Mais il y a d'autres personnes, le même jour, qui vont écouter ces gens-là. Eux, ils attendent de l'énergie. Ils vont en trouver. Donc, pour moi, c'est des radiateurs en ce sens qu'ils balancent, voyez, ils ouvrent, ils rendent les choses possibles. Ça, c'est une chose qui est fondamentale. L'optimiste rend possible. Et ça s'oppose, l'image du radiateur, elle s'oppose à ce que j'appelle l'image du drain. C'est-à-dire que vous avez des gens, en revanche, ils vous drainent. C'est-à-dire que le fait d'être avec eux, d'interagir avec eux, ça vous pompe, ouais, ça tire en bas. Hein. Et ça n'a rien à voir d'ailleurs avec l'humeur de la personne. Vous pouvez avoir des gens assez sérieux, etc., qui vont être des radiateurs, mais ils sont habités par une espèce de force comme ça, et qui vont communiquer aux autres, souvent d'ailleurs sans faire exprès, hein, faut pas croire. Et puis vous avez des drains, on peut avoir des drains tristes, mais je peux vous dire, il y a des drains gays. C'est-à-dire que le joyeux de riz qui désingue tout ce qui passe à sa portée, et on sort de là, on a passé une soirée avec lui ou avec elle, on est épuisé, quoi, parce que, et on n'a pas obligatoirement passé un excellent moment. Tant qu'à jouer un rôle social, essayons d'être dans la mesure du possible des radiateurs plutôt que des drains. Parce que, comme je vous disais, j'ai l'intime conviction, après maintenant plusieurs années à avoir quand même travaillé avec les deux, optimistes et pessimistes, on est face à une énergie relationnelle. Mmh. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'optimisme est une énergie relationnelle, mais attention, le pessimisme peut aussi être bien utilisé une énergie relationnelle. Parce que c'est parfois le pessimisme qui va nous alerter, qui va nous dire attention, danger, as-tu pris tes précautions, est-ce qu'il y a un plan B dans ta vie, etc. Il existe des situations où justement le radiateur risque de créer un peu trop de chaleur et où un petit coup de drain peut permettre de purger quand même le système.
Et parce que vous parlez, alors on va y revenir effectivement à ce relationnel, mais je trouve intéressant, c'est vrai qu'on avait presque, j'avais presque oublié de vous faire parler de ça, mais vous parlez de deux optimismes, c'est-à-dire il y a l'optimisme de but et l'optimisme de chemin.
Qu'on pourrait aussi appeler l'optimisme de plan. L'optimisme de but, c'est l'intime conviction qu'on va gagner, on va réussir.
On va réussir. C'est clair.
L'optimisme de plan, c'est être intimement persuadé que ça va être facile. Le pessimisme de but, au contraire, c'est on va tout rater. Et le pessimisme de plan, c'est et en plus on va souffrir, quoi. Ça va mal se passer. Bon. Et donc, dans la vraie vie, face aux projets qui sont les nôtres dans nos vies, en permanence, on articule l'ensemble. Donc, vous avez ce qu'on pourrait appeler les optimistes radicaux. C'est vraiment optimisme de but et de plan. On va réussir et ça va être facile. Alors ça, quand c'est dans des environnements un peu complexes, voyez, incertains, de crise ou autre, c'est un peu risqué. Bon, aussi risqué d'ailleurs que l'option inverse qui est le pessimisme radical, c'est-à-dire pessimisme de but et de plan. On va échouer et on va souffrir en plus, on aura mal. Bon. Après, vous avez une posture un peu perverse qui existe chez certains intellectuels, qui est ce que j'appelle le pessimisme de but, optimisme de plan. Alors là, c'est très français, ça, hein. C'est-à-dire on va échouer mais ça nous aura appris des choses. On va tout rater mais on se sera bien marré. Enfin bon, ça c'est un truc à la française.
La
véritable option, je dirais, de sécurité, c'est optimisme de but, pessimisme de plan. On va réussir, mais ça va être compliqué. Vous allez guérir, monsieur, mais il va falloir se battre. On finira par obtenir ce financement pour votre entreprise, mais il va falloir vraiment, on va en baver sur les chiffres et tout ça, mais on va travailler dessus, vous allez voir, on va s'en sortir. Ne pas hésiter, à un moment donné, mettre en avant la difficulté, parce que on est quand même dans une société où, comme je dis souvent, seul l'inconfort rend vigilant. Hein. Donc, attention, sachons aussi tendre l'oreille, parfois, au petit pessimiste qui est en nous, surtout quand on est dans une situation de vie. Alors c'est là où c'est la situation de vie dans laquelle l'optimisme devient dangereux, elle est très facile à identifier. Chaque fois que je me retrouve en même temps, au même moment, face à un risque vital pour moi, mon entreprise, ma famille, ma santé, mon budget, bon, j'ai un risque vital et en même temps, je n'ai pas le contrôle. Là, c'est le principe de base. Vous êtes face à un risque vital, vous n'avez pas le contrôle. Faut être pessimiste. Le type qui sort de boîte de nuit à 4 heures du matin, qui a 3 grammes dans le sang et qui doit partir, je dirais, repartir dans la gruyère, vous voyez, avec sa bagnole. Bon, il dit non, je vais y arriver sûrement, ça va aller. Non, ça va pas aller. Risque vital, absence de contrôle, faut pas. Là, il vaut mieux être pessimiste.
C'est plus de l'optimisme, c'est de l'inconscience.
Voilà,
bien d'accord. Il y a un moment où, voilà, il faut juste remettre les pendules à l'heure. On en revient aux relations sociales. On a fait une petite incardade sur ce chemin. Quelque chose qui caractérise les optimistes, c'est la force du réseau. Qui de la poule et de l'œuf ? C'est-à-dire qu'il s'appuie à la fois sur son réseau et en même temps, il est capable d'en créer un. Il y a toute une histoire en fait, de convergence autour d'un optimiste.
Oui, il y a une convergence qui était... Alors moi, j'avais, à l'époque, j'avais commencé en fait, à mettre le doigt là-dessus en travaillant sur un autre sujet. Parce que moi, je suis arrivé à l'optimisme parce que j'avais été contacté par nos amis belges, dont on a parlé au début d'émission, parce que j'étais surtout connu, moi, pour mes travaux sur ce qu'on appelle les personnalités chanceuses. C'est-à-dire qu'est-ce qui faisait que des gens ont plus de chance que d'autres dans la vie. Et il y avait un point, moi, qui m'avait beaucoup frappé. Alors, quand on parle des personnalités chanceuses, on ne parle pas des gens qui ont gagné au loto, vous voyez, ou tout ça, ou qui ont échappé par miracle à un accident d'avion. Non, non, ça, c'est des espèces de chances hollywoodiennes qui sont complètement isolées. C'est de l'ordre du fait divers.
Du miracle. Fut-il
joyeux. Bon. Non, non, les personnalités chanceuses, c'est vraiment des hommes ou des femmes qu'on croise dans la rue et qui sont des gens qui, quand on les observe, manifestement, dès qu'ils rencontrent quelqu'un, c'est quelqu'un d'intéressant. Ils tombent toujours sur l'information dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. On se demande encore comment ils font.
Et les fameuses synchronicités dont
voilà,
on parle.
La fameuse synchronicité jungienne, hein, bien connue. Et en fait, moi, ce que j'avais observé là aussi en tant que vraiment qu'observateur presque neutre, c'est que l'une des caractéristiques, mais qui est une caractéristique comportementale, c'est flagrant, quoi. Des grands chanceux de la vie, c'est que ce sont des gens qui, même parfois sans s'en rendre compte, passent leur temps à être des chances pour les autres. Et ça, cette idée-là, elle est absolument essentielle. Moi, le nombre de gens que je vois qui perdent leur vie à essayer de rencontrer des opportunités, en oubliant qu'avant de chercher des opportunités, il faudrait peut-être qu'ils commencent à en être une. Et se poser la question, mais pourquoi est-ce que dans le fond, la personne qui me rencontre aujourd'hui, même par hasard, c'est son jour de chance? Et souvent, moi je dis, mais quand est-ce que vous avez été une chance pour quelqu'un la dernière fois? Et parfois, je me dis, vous me prenez de court, là. Juste tout le problème. Dès l'instant où on considère qu'on est dans cette énergie relationnelle, la caractéristique justement de l'optimiste, comme il est en fait à la recherche en permanence des points forts de l'autre, des leviers d'action, et il se dit, de toute façon, ça ne marchera peut-être pas, mais si on ne met pas en œuvre même des micro-solutions, ça ne marchera jamais. Par définition, on passe son temps à être une force de mise en lien. Je vous donne un exemple. Beaucoup de travaux aujourd'hui sont faits sur le fonctionnement en réseau, avoir des réseaux, etc.
C'est ce qui est développé sur Internet, oui, tous ces réseaux.
Mais c'est fascinant de voir le nombre de gens qui confondent avoir un réseau avec connaître beaucoup de gens. Ils croient qu'ils ont un réseau. Non, en fait, ils ont un bottin. D'abord, un réseau, ce n'est pas un contenu déjà. Un réseau, c'est une dynamique. Et quelqu'un qui vit en mode réseau, c'est facile à repérer, hein, quelqu'un qui vit en mode réseau, c'est quelqu'un qui passe sa vie à mettre en relation des gens qui ne se connaissent pas encore. Pas compliqué. Quand vous mettez des gens en relation qui ne se connaissent pas encore, le problème c'est que pour pouvoir mettre en relation des gens qui ne se connaissent pas encore de façon intelligente, il va bien falloir à un moment donné s'être intéressé à ces gens-là.
Il faut
sans
les connaître.
Ça, on n'aura rien à mettre en relation.
Sinon, ça ne sert à rien.
Donc c'est pas en soi, vous voyez, techniquement c'est pas compliqué, si ce n'est que pour quelqu'un qui a été en permanence centré sur lui-même ou sur elle-même, pour certains il y a une espèce de remise en forme à envisager quand même. Mais de ce point de vue-là, je suis sûr de mon coup. Là. Pour vous voulez avoir de la chance dans la vie, pas de problème. Commencez à vous demander pour qui vous pourriez en être une. Vous allez voir, ça va tout changer.
Si on pense au niveau professionnel, une étude qui m'a vraiment frappée aussi dans votre livre, c'est de dire que les optimistes au travail font aussi une sacrée différence.
Ah oui.
Je pense à celle du docteur Seligman, qui engage des assureurs, oui, certains formés, ouais, béton, et puis des optimistes qui ne connaissent pas grand-chose.
Ouais.
Et force est de constater que le temps passe, ouais, et là, les résultats, je vous laisse découvrir.
L'étude, ça a été vraiment un tournant dans la recherche scientifique sur l'optimisme. Mmh. Le fait que dans cette compagnie d'assurance américaine, qui s'appelle la Metropolitan Life, dans ce recrutement, qui était un énorme recrutement au niveau de toute l'Amérique du Nord, ils se retrouvent avec effectivement des candidats qui avaient été rejetés parce que honnêtement, ils n'avaient pas le niveau intellectuel, ça n'allait pas. Mais en revanche, ils avaient un niveau d'optimisme invraisemblable sur les tests de Seligman. Et Seligman, un peu au flanc, quoi, hein, mmh, avait dit au DRH et ensuite au président, écoutez, il faut quand même tester-les. Donc ils avaient, je passe rapidement, ils avaient fini par accepter de prendre ces gens-là, mais ils n'y croyaient pas. D'ailleurs, ils avaient dit, on leur fait un contrat à durée déterminée, ils seront obligés de suivre la même formation que les autres, et s'ils n'y arrivent pas, c'est tant pis pour eux. Et de toute façon, on les mettra à part, hein, parce qu'on ne va pas aller pourrir le panier.
Nos équipes qui marchent bien. Avec
Et contre toute attente, ces hommes ou ces femmes qui étaient à la fois assez faibles, il faut admettre, hein, mmh, intellectuellement, mais qui avaient un niveau d'optimisme incroyable, in fine, en tout cas pour vendre ces produits-là, ont eu des résultats, mais absolument extraordinaires. Mais largement, c'est-à-dire qu'ils se retrouvaient avec, au bout de deux ans, ils avaient un taux de production de nouveaux contrats qui était supérieur de 20 et quelques pourcents à la moyenne des autres de la compagnie.
Dans votre livre, j'ai 21% de chiffre d'affaires de plus la première année et 57% la deuxième année.
Alors, attention, par rapport aux pessimistes, voilà, mais par rapport à la moyenne de production de contrats de cette société, au bout de deux ans, ils étaient quasiment à plus de 20%, ce qui était énorme. Et Seligman, à ce moment-là, d'ailleurs, quand il a retravaillé sur ses résultats, parce qu'il ne suffit pas de le constater, il faut essayer de comprendre quand même. Il a mis le doigt sur un point important, il a dit, mais dans le fond, on s'est nous-mêmes fait avoir par notre propre étude. C'est-à-dire qu'en fait, on a cru que c'était le critère de l'optimisme qui était le critère final. Or, l'optimisme n'était en fait qu'une espèce, comment vous dire, d'intermédiaire. Parce que l'optimisme était un marqueur d'autre chose, c'était en fait le marqueur de la persévérance. C'est-à-dire que l'optimiste, c'est celui qui se découragera en dernier. C'était ça en fait l'idée force. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette variable optimisme, on la mesure aussi par exemple en milieu hospitalier, par rapport à des traitements lourds. On la mesure par rapport à de la création d'entreprises, souvent par rapport à des projets qui vont avoir des hauts et des bas, des retours en arrière. Le lien entre optimisme et persévérance, là, il était vraiment démontré. C'est ça qui était incroyable.
Et puis justement, on arrive à la fin de cette émission. C'est vrai que vous parlez de persévérance. On a oublié aussi de dire qu'une des bonnes raisons d'essayer d'être optimiste, c'est la santé. Parce oui. qu'on vit, on n'en a pas encore parlé, mais qu'est-ce qu'on vit mieux quand on est optimiste ?
Ah oui, on vit beaucoup mieux parce que... alors d'ailleurs, Et plus longtemps. Alors certains vous disent, ben oui, c'est parce que les optimistes, en fait, ayant davantage... Vous savez, on parlait tout à l'heure de les forces, les leviers d'action, les solutions partielles. Par exemple, les optimistes vont davantage, paradoxalement, suivre leur traitement. On pourrait croire que l'optimiste pense que s'il ne se soigne pas, il guérira tout seul. Non, là, on serait typiquement dans le cadre de l'optimisme dysfonctionnel. Mais aussi, le fait d'être optimiste fait qu'on prend les choses différemment. Par rapport à des situations de stress, des situations difficiles, on va probablement les digérer, les recycler, on va dire. Mmh. Je reprends mon mot, les optimiser.
Voilà. Ressasser.
Dès l'instant que je suis dans une espèce d'optimisation, je crée un univers qui va aussi me nourrir. Alors, bien évidemment, voilà, la vie humaine étant ce qu'elle est, on sait bien que sur la très longue durée, pour nous tous, au bout du compte, c'est quand même le pessimiste qui finira par avoir raison. Mais comme on dit, entre-temps, l'optimiste aura quand même beaucoup plus profité du voyage.
Et puis c'est vrai que vraiment pour la santé, ça c'est aussi des choses que l'on peut lire dans votre livre, il y a aussi des études vraiment qui montrent oui. combien ça garde en bonne forme longtemps.
Vous évoquiez très justement Michel Lejoyeux en début d'émission, l'une des plus belles synthèses sur les liens entre optimisme et santé, en tout cas en langue française, c'est dans Les secrets des comportements de Michel Lejoyeux.
Merci Philippe Gaby, on aurait pu rester encore très très longtemps, mais on se retrouvera.
Ce sera avec grand plaisir,
pour
merci
le,
en
pour
tout
le
cas.
Prochain. Merci à vous, éloge de l'optimisme, quand les enthousiastes font bouger le monde. J'espère que ça vous aura donné envie en tout cas de planter une graine, parce que, et ça vous le dites en conférence, hein, on a des petites graines comme ça, et c'est à nous de les planter, de
Absolument.
Les faire fructifier, pousser. Merci infiniment, et écoutez, on écoute un peu de musique, on écoute William White pour se quitter. Yeah.
Égosystème, tous les samedis à 13h sur la première.
C'est la fin de cette émission pour la réécouter et... je pense que vous allez envoyer le lien, comme ça vos amis autour, quelque chose me dit ça. Pour ce début d'année, nous recevions Philippe Gabillet, rts.ch, sur notre site internet. Via la page Égosystème, vous pouvez télécharger l'émission et la faire passer plus loin si le cœur vous en dit.
Égosystème.
Pour rappel, vous dire encore que cette émission a été enregistrée avant la date du mercredi 7 janvier, raison pour laquelle il ne fait aucune allusion aux tristes événements qui se sont déroulés en France. Voilà, la semaine prochaine, nous continuerons notre série et nous recevrons Laurent Gounelle pour parler de renaissance et d'optimisme toujours. Enfin, on va essayer. Sur la première, bonne suite, il est déjà 14h.